Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des blessures sportives du bras.
Ah oui, un sujet qui touche beaucoup de monde.
Exactement. Et pour cette exploration, on s'appuie sur un article très complet intitulé Blessures sportives du bras. Approche complète et intégrée pour le traitement des lésions sportives.
Un titre qui promet une analyse approfondie.
Tout à fait. Alors que vous soyez sportif vous-même ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'est, cette Deep Dive est pour vous. On va décortiquer ensemble les causes de ces blessures, comment les reconnaître et surtout comment les traiter efficacement grâce aux dernières avancées en médecine sportive.
Et croyez-moi, les traitements ont bien évolué. L'article met justement en avant une approche révolutionnaire développée par la clinique TAGMED et le docteur Sylvain Desforges.
La fameuse approche TUGMED, on en a beaucoup entendu parler.
Oh, oui, c'est une approche qui mise sur la globalité et la personnalisation. On ne se contente pas de traiter les symptômes, on s'attaque aussi aux causes profondes de la blessure.
C'est fascinant. Mais avant de plonger dans les détails de cette approche, on va commencer par les bases. L'article nous rappelle d'abord l'anatomie complexe du bras.
Eh oui, il faut bien comprendre comment tout cela fonctionne pour comprendre comment ça peut se blesser. On parle bien sûr du biceps, du triceps, des muscles de l'avant-bras et bien sûr de l'humérus.
Tout un ensemble d'os, de tendons, de haut-os qui travaillent ensemble pour permettre au bras d'effectuer une multitude de mouvements.
Et c'est justement cette complexité, couplée à la variété des mouvements du bras dans le sport, qui le rend si vulnérable. Pensez à un joueur de tennis qui répète inlassablement son service ou à un lanceur de baseball qui propulse la balle à toute vitesse.
Des mouvements impressionnants, mais qui mettent le bras à rude épreuve.
Exactement. Ce sont des exemples classiques de blessures dues à des micro-traumatismes répétés.
Micro-traumatisme, c'est-à-dire hasata.
Des petits chocs, des petites déchirures, des petites inflammations qui, à force de se répéter, finissent par engendrer une douleur chronique.
Ah oui, le fameux tennis elbow, l'épicondylite, on connaît tout ça.
Exactement. Et l'article détaille, bien sûr, les autres causes de blessures, comme les traumatismes aigus.
Traumatisme aigu, c'est différent des micro-traumatismes.
Oui, on parle là de blessures plus soudaines, plus violentes, une chute, un choc direct pendant un match de rugby. Ça peut provoquer des déchirures musculaires, des fractures, des entorses.
Ah, et ça fait mal à rien que d'y penser.
Et l'article souligne aussi l'importance des facteurs de risque individuels.
Facteur de risque individuel,
OCS.
c'est-à-dire au prix sous.
Par exemple, des déséquilibres musculaires, une mauvaise technique, un équipement inadapté. Tout cela peut prédisposer aux blessures.
Donc il faut être attentif à tous ces éléments. Mais une fois que la blessure est là, comment la reconnaître? Quels sont les signes qui doivent nous alerter?
Eh bien, l'article décrit les symptômes les plus courants. Douleurs localisées, raideurs, faiblesses, spasmes musculaires, sensibilité au toucher.
Et le gonflement, j'imagine que c'est fréquent aussi.
Oui, bien sûr. Et parfois, la douleur peut irradier vers d'autres parties du bras.
D'accord, donc si on ressent un ou plusieurs de ces symptômes, il faut consulter un médecin. Mais comment le médecin va-t-il poser un diagnostic précis?
Il va combiner plusieurs outils. L'examen clinique, bien sûr, mais aussi des tests fonctionnels pour évaluer la mobilité et la force et l'imagerie médicale.
Imagerie médicale. On parle d'échographie, d'IRM, de radiographie.
Exactement. C'est en croisant toutes ces informations que le médecin peut déterminer la nature et la gravité de la blessure.
Et c'est là qu'intervient l'approche tardivement, c'est bien ça?
Tout à fait. L'article met l'accent sur cette approche multidisciplinaire qui prend en compte tous les aspects de la blessure.
Alors, décortiquons un peu cette approche TAGENED. Par quoi on commence INC?
Eh bien, la première étape, c'est la gestion de la douleur. L'article mentionne l'utilisation de médicaments comme les ZIN, les analgésiques, les relaxants musculaires, mais aussi, bien sûr, le repos et l'application de glace.
Le fameux protocole ISO, Rest Ice Compression Elevation Lager.
Oui, c'est la base. L'objectif est de calmer l'inflammation et de permettre au corps de se mettre en mode réparation.
Et ensuite, on passe aux choses sérieuses.
C'est là que la clinique Teijmen utilise des technologies de pointe pour stimuler la régénération des tissus. Par exemple, la thérapie au laser.
Le laser, laser, pour soigner les blessures de lait.
Oui, c'est une technique qui a fait ses preuves. Imaginez un laser qui accélère la guérison en stimulant la production d'ATP, la source d'énergie des cellules.
Et ça marche vraiment qu'il.
Oui, de nombreuses études ont démontré l'efficacité du laser pour soigner les tendinites, les entorses, les déchirures musculaires.
C'est impressionnant, mais qu'en est-il de la thérapie par onde de choc? J'en ai entendu parler, mais je ne comprends pas bien le principe.
C'est une autre technique très efficace qui peut paraître un peu contre-intuitive au premier abord. On utilise des ondes de choc pour créer des micro-traumatismes contrôlés dans les tissus lésés.
Des micro-traumatismes? Mais On vient de dire qu'il fallait les éviter.
Oui, mais là, c'est différent. Ces micro-traumatismes contrôlés ont pour but de relancer le processus naturel de guérison du corps.
Ah, d'accord. On stimule le corps pour qu'il se répare plus vite.
Exactement. Les ondes de choc stimulent la circulation sanguine, brisent les adhérences qui peuvent se former dans les muscles et les tendons et accélèrent la régénération des tissus.
Donc, on peut utiliser le laser et les ondes de choc ensemble.
Oui, c'est même recommandé, ça. Ces deux techniques agissent en synergie pour maximiser leur efficacité.
Et après l'assimilation tissulaire, on passe à quoi?
Eh bien, l'étape suivante, ce sont les interventions manuelles réalisées par des ostéopathes, des kinésithérapeutes ou d'autres professionnels de santé. On parle de techniques comme l'ostéopathie, la libération myofasciale ou l'utilisation de percuteurs de précision.
À quoi servent ces techniques exactement?
Imaginez vos muscles et vos fascias comme un réseau complexe de cordes. Si certaines cordes sont trop tendues, nouées ou désalignées, ça peut créer des restrictions de mouvement et des douleurs.
C'est une image parlante.
Eh bien, les interventions manuelles permettent de détendre ces cordes, de restaurer l'alignement du corps, d'améliorer la circulation sanguine et de réduire les tensions.
On remet de l'ordre dans le système, en quelque sorte appelé, et après les interventions manuelles.
On attaque la rééducation fonctionnelle, avec des exercices de renforcement musculaire, d'étirement, de proprioception, d'équilibre.
Proprioception fait. C'est quoi ce V?
C'est la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace. C'est essentiel pour avoir un bon équilibre et une bonne coordination des mouvements. Et c'est souvent altéré après une blessure.
Donc, on rééduque le corps pour qu'il retrouve ses pleines capacités.
Exactement. L'objectif est de retrouver une fonction optimale du bras en s'adaptant progressivement aux contraintes du sport pratiqué.
Donc, on ne se contente pas de soigner la blessure. On prépare le corps à reprendre l'effort.
Tout à fait. Et c'est là que la personnalisation est essentielle. Le programme de rééducation est adapté à chaque athlète en fonction de son sport, de son niveau, de ses antécédents et de ses objectifs.
On a donc la gestion de la douleur, la stimulation tissulaire, les interventions manuelles et la rééducation fonctionnelle.
C'est déjà un programme très complet. Mais attendez, j'ai cru comprendre que l'article parlait aussi d'une dimension naturopathique. De quoi s'agit-il là?
Ah oui, c'est l'une des particularités de l'approche TAJMED. On intègre des conseils en nutrition, en gestion du stress, en hygiène de vie pour optimiser la récupération et la performance.
On prend en compte l'individu dans sa globalité.
Tout à fait. Par exemple, on peut recommander une alimentation anti-inflammatoire riche en antioxydants, ou des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga pour gérer le stress et favoriser la détente musculaire.
C'est vraiment une approche holistique du traitement. Et j'imagine que tout cela est mis en place de manière personnalisée en collaboration avec l'athlète.
Exactement. On n'impose rien, on accompagne, on écoute, on ajuste le programme en fonction des besoins et des progrès.
Ce suivi personnalisé, c'est vraiment la clé de la réussite du traitement, non?
Tout à fait. L'article insiste d'ailleurs sur l'importance d'une communication fluide entre l'athlète et l'équipe soignante.
Donc on utilise des questionnaires, des bilans réguliers?
Oui, et de plus en plus, on intègre des outils de suivi digitaux pour suivre l'évolution de la blessure et ajuster le programme en temps réel.
C'est comme un coaching personnalisé pour la récupération.
Mmh.
Et on en arrive maintenant à la dernière étape de l'approche TAJMED,
Mmh.
la prévention des récidives.
Ah oui, c'est un point essentiel. Une fois la blessure guérie, il faut mettre en place des stratégies pour éviter qu'elle ne se reproduise.
Alors, comment fait-on concrètement?
On travaille sur plusieurs aspects. D'abord, l'éducation. Il faut que l'athlète comprenne les mécanismes de sa blessure, les facteurs de risque, qu'il apprenne à bien s'échauffer, à s'étirer, à adopter une bonne technique dans son sport.
On lui donne les clés pour devenir acteur de sa propre santé.
Exactement. Ensuite, on met en place un programme d'entretien musculaire personnalisé, avec des exercices de renforcement et d'étirements ciblant les muscles du bras.
Pour maintenir une bonne force, une bonne souplesse, une bonne stabilité.
Tout à fait. Et on lui donne aussi des conseils en ergonomie pour éviter les postures et les mouvements qui sollicitent excessivement le bras.
Par exemple, si sa blessure est liée à une mauvaise posture au travail.
Exactement. On lui apprendra à bien positionner son écran d'ordinateur, à utiliser un clavier ergonomique, à faire des pauses régulières pour éviter les tensions musculaires.
Donc on intègre la prévention dans la vie quotidienne de l'athlète.
Tout à fait. Et bien sûr, l'alimentation, la gestion du stress, les techniques de relaxation continuent à jouer un rôle important dans cette phase de prévention.
On encourage l'athlète à adopter un mode de vie sain et équilibré sur le long terme.
Oui, c'est la clé pour une santé optimale et une performance durable.
L'approche TAJMED est vraiment impressionnante. On sent qu'on a pensé à tout. Mais j'ai une question. L'article parle beaucoup des athlètes. Est-ce que ces traitements sont pertinents pour les personnes qui ne pratiquent pas de sport à haut niveau?
C'est une excellente question. En réalité, les principes de l'approche TAJMED peuvent être appliqués à tous les types de blessures du bras, que ce soit liées au sport, au travail, aux activités quotidiennes ou à un accident.
Donc, même une personne qui souffre d'une tendinite à cause de son travail sur ordinateur pourrait bénéficier de ces traitements.
Tout à fait. L'important, c'est de réaliser un diagnostic précis et d'adapter le plan de traitement aux besoins individuels.
C'est rassurant de savoir que ces avancées en médecine sportive peuvent profiter à un large public. Mais est-ce qu'il y a des limites à cette approche? Des cas où elle n'est pas adaptée?
Bien sûr. Il existe des cas particuliers où l'approche TAJMED seule ne suffit pas. Par exemple, en cas de fracture complexe, de lésions nerveuses graves ou de pathologies sous-jacentes. Dans ces cas-là, la chirurgie ou d'autres traitements spécifiques peuvent être nécessaires.
Donc, il faut toujours une évaluation médicale approfondie pour déterminer le meilleur traitement.
Exactement. L'approche TAJMED ne se substitue pas à la médecine traditionnelle, elle la complète et l'enrichit.
Et maintenant, la partie qui me passionne le plus, l'avenir du traitement des blessures sportives du bras. L'article évoque des innovations assez incroyables.
Ah oui, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Imaginez des dispositifs laser et ondes de choc de nouvelle génération, encore plus précis et puissants.
Waouh! Des lasers capables de cibler les tissus lésés, avec une précision millimétrique là.
Exactement. Et imaginez un suivi en temps réel encore plus poussé, grâce à l'intégration de capteurs biométriques et d'applications mobiles, on pourrait suivre l'évolution de la blessure et ajuster le programme de rééducation de manière dynamique.
C'est comme avoir un coach virtuel qui surveille votre guérison en permanence.
C'est une excellente analogie. Et ce n'est pas tout. L'article évoque également l'analyse des biomarqueurs.
Biomarqueurs, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des molécules que l'on peut doser dans le sang ou dans les urines et qui peuvent nous donner des informations précieuses sur l'état de santé d'un individu.
Et comment ça s'applique aux blessures du bras?
Eh bien, imaginez qu'on puisse identifier, grâce à l'analyse des biomarqueurs, les athlètes qui risquent de développer des complications, ceux qui ont besoin d'un suivi plus intensif, ceux qui peuvent reprendre l'entraînement plus rapidement.
On pourrait personnaliser le traitement dès le départ en fonction du profil biologique de l'athlète.
Exactement. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et pour rendre les soins plus accessibles, l'article mentionne les plateformes de télé-rééducation.
La télé-rééducation aide.
C'est quoi? Ce sont des plateformes en ligne qui permettent de suivre des programmes de rééducation à distance, avec des exercices guidés par des vidéos, des consultations en visioconférence avec des kinésithérapeutes.
C'est une excellente nouvelle pour les athlètes qui vivent loin des centres spécialisés.
Tout à fait. Mais attention, toutes ces innovations ne seraient rien sans une collaboration interdisciplinaire solide. L'article insiste sur l'importance de la synergie entre les différents spécialistes.
Médecins du sport, kinésithérapeutes, ostéopathes.
Exactement. Et aussi des nutritionnistes, des psychologues du sport, des préparateurs physiques. C'est l'idée d'une équipe qui travaille ensemble pour offrir une prise en charge globale et personnalisée à chaque athlète.
Et pour garantir la qualité des soins, l'article insiste sur la formation continue des professionnels et la mise en place de protocoles standardisés.
Tout à fait. C'est important pour assurer une cohérence dans les pratiques et pour que chaque athlète bénéficie des meilleurs soins possibles.
Et bien sûr, la recherche interdisciplinaire est essentielle pour continuer à innover et à améliorer les traitements.
Absolument. C'est un domaine en pleine effervescence. Et on a encore beaucoup à apprendre sur les blessures du bras et sur les meilleures façons de les soigner.
On a donc un aperçu des innovations technologiques, de l'importance de la collaboration interdisciplinaire et du rôle crucial de la recherche. L'avenir du traitement des blessures sportives du bras semble prometteur.
Absolument. Et l'article conclut en soulignant que l'approche multidisciplinaire et personnalisée est la clé pour une récupération optimale et une performance sportive durable.
C'est un message important à retenir, bon.
Et pour conclure, l'article soulève quelques questions pour la recherche future. Par exemple, comment optimiser la personnalisation des paramètres de traitement en fonction des caractéristiques de chaque athlète? Comment maximiser la synergie entre les différentes approches thérapeutiques? Comment utiliser les technologies de suivi en temps réel et l'analyse des biomarqueurs pour améliorer l'efficacité des traitements?
Des questions fascinantes qui ouvrent la voie à de nouvelles découvertes et à une meilleure compréhension des blessures sportives du bras.
Exactement. L'avenir de la médecine sportive est prometteur et je suis impatient de voir comment ces innovations vont transformer la prise en charge des blessures du bras.
Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, l'article complet « Blessures sportives du bras », approche complète et intégrée pour le traitement des lésions sportives, est disponible en ligne.
N'hésitez pas à le consulter pour approfondir vos connaissances sur ce sujet passionnant.
On se retrouve très bientôt pour la suite de cette Deep Dive, Andy.
avec un focus sur les différentes phases de la rééducation et les conseils de prévention pour éviter les blessures du bras.
D'ici là, prenez soin de vos bras et restez à l'écoute, Ali.
À bientôt. On a vu dans la première partie que l'approche StageMed propose une prise en charge globale et personnalisée des blessures du bras. Mais comment ça se traduit concrètement? Eh bien, l'article détaille les différentes phases de la rééducation et c'est assez fascinant de voir comment on accompagne l'athlète pas à pas vers la guérison.
Ah oui, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe en pratique. On parle de phases de rééducation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes.
Exactement. On peut distinguer quatre phases principales. La phase aiguë, la phase de récupération active, la phase de rééducation fonctionnelle et la phase préventive. Chacune de ces phases a ses objectifs et ses protocoles spécifiques.
Et la première phase, la phase aiguë, c'est juste après la blessure, c'est ça?
Tout à fait. Imaginez, vous venez de vous blesser au bras pendant un match. La douleur est intense, il est peut-être un gonflement, une ecchymose. L'objectif principal à ce stade, c'est de contrôler la douleur et l'inflammation.
Donc on parle de repos, des médicaments anti-inflammatoires, d'application de glace.
Précisément. Et c'est aussi le moment où on peut introduire les premières séances de thérapie au laser et par onde de choc. On l'a vu tout à l'heure, ces technologies permettent de stimuler la guérison dès les premiers jours.
C'est intéressant de voir qu'on agit aussi rapidement. Et ensuite, on passe à la phase de récupération active 7.
Exactement. Une fois la douleur et l'inflammation maîtrisées, on peut commencer à mobiliser le bras progressivement. L'objectif ici, c'est de retrouver de la souplesse, de réduire les raideurs et de restaurer l'amplitude articulaire.
Donc on parle d'exercices d'étirement doux, de mobilisation passive.
Oui, tout à fait. Et on continue aussi les séances de laser pour favoriser la circulation sanguine et la cicatrisation des tissus. D'ailleurs, l'article mentionne une intervention spécifique pour les tendinopathies calcifiantes.
Les tendinopathies calcifiantes, qu'est-ce que c'est, toi ?
Ce sont des tendinites qui s'accompagnent de la formation de dépôts calciques dans les tendons. Ces dépôts peuvent être très douloureux et limiter la mobilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les traiter efficacement avec des ondes de choc de précision.
Comment ça marche? On casse les calcifications avec les ondes de choc.
En quelque sorte, oui. Les ondes de choc permettent de fragmenter les dépôts calciques, ce qui facilite leur résorption par l'organisme. C'est une technique non-invasive qui a fait ses preuves.
C'est incroyable de voir à quel point la technologie permet de traiter des problèmes aussi précis.
Oui.
Et après la phase de récupération active, on passe à la phase de rééducation fonctionnelle. C'est bien ça?
Tout à fait. C'est la phase où on commence vraiment à reconstruire la force, l'endurance et la coordination du bras. L'objectif, c'est de préparer l'athlète à reprendre son activité sportive progressivement et en toute sécurité.
Donc on parle d'exercices de renforcement musculaire, de proprioception, d'équilibre.
Exactement. On met en place des programmes d'exercices spécifiques adaptés au sport pratiqué par l'athlète. On travaille sur des mouvements fonctionnels qui sollicitent les muscles du bras dans des conditions proches de la réalité sportive.
J'imagine que la progressivité est essentielle à ce stade. On ne veut pas brusquer le bras et risquer une rechute.
Vous avez tout à fait raison. On augmente l'intensité et la complexité des exercices progressivement en fonction des capacités de l'athlète et de sa tolérance à l'effort. L'objectif, c'est de le remettre en forme sans le surcharger.
Et la dernière phase, la phase préventive, c'est quand l'athlète a repris son activité sportive.
Exactement. L'objectif de cette phase, c'est de prévenir les récidives et de maintenir la santé du bras sur le long terme. On ne se contente pas de guérir la blessure, on veut éviter qu'elle ne se reproduise.
Et comment fait-on pour prévenir les rechutes?
On travaille sur plusieurs aspects. D'abord, on continue les exercices de renforcement musculaire et d'étirement, mais de manière plus espacée. Ensuite, on donne des conseils ergonomiques à l'athlète. Par exemple, si sa blessure est liée à une mauvaise posture au travail, on lui apprendra à mieux positionner son écran d'ordinateur, à utiliser un clavier ergonomique, à faire des pauses régulières pour éviter les tensions musculaires.
Donc, on intègre la prévention dans la vie quotidienne de l'athlète.
Tout à fait. Et on lui apprend aussi à écouter son corps, à reconnaître les signes de fatigue ou de douleur, à adapter son entraînement en fonction de ses sensations. L'idée, c'est de le rendre autonome dans la gestion de sa santé.
Et on peut imaginer que l'alimentation, la gestion du stress, les techniques de relaxation continuent à jouer un rôle important dans cette phase préventive.
Absolument. On encourage l'athlète à adopter un mode de vie sain et équilibré pour optimiser sa récupération, sa performance et sa santé globale.
C'est une vision très complète de la prévention qui va bien au-delà du simple renforcement musculaire.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui permettent de suivre l'évolution de l'athlète pendant la rééducation?
Oui, bien sûr. On utilise des questionnaires, des tests fonctionnels, des bilans réguliers pour évaluer les progrès et ajuster le programme si nécessaire. Et de plus en plus, on intègre les outils numériques dans le suivi.
Des outils numériques qui n'éric.
C'est-à-dire CERN,
Par exemple, les applications mobiles qui permettent à l'athlète d'enregistrer ses exercices, de suivre ses progrès, de recevoir des rappels pour ses séances de rééducation. On peut aussi utiliser des capteurs biométriques pour mesurer la force musculaire, l'amplitude articulaire, la qualité du sommeil. Ces données nous permettent d'affiner le programme de rééducation et de le personnaliser au maximum.
C'est comme avoir un coach virtuel qui vous accompagne à chaque étape. C'est vraiment impressionnant de voir comment la technologie révolutionne la prise en charge des blessures. Et justement, parlons de l'avenir du traitement des blessures du bras.
Ah oui, c'est un domaine en pleine effervescence avec des innovations qui pourraient transformer radicalement la façon dont on soigne et on prévient les blessures.
Alors racontez-nous, quelles sont ces innovations qui pourraient révolutionner la prise en charge des blessures du bras?
Eh bien, l'article mentionne des dispositifs de thérapie au laser et par ondes de choc de nouvelle génération, encore plus précis et efficaces. On parle de lasers capables de cibler des zones très spécifiques du tissu, d'ondes de choc modulées en fréquence et en intensité pour s'adapter à chaque type de lésion.
On peut imaginer des traitements encore plus ciblés, plus rapides, plus efficaces.
Exactement. Et imaginer un suivi en temps réel, encore plus poussé, grâce à l'intégration de capteurs biométriques miniaturisés implantés directement dans les tissus. On pourrait suivre l'évolution de la blessure en continu, détecter les signes de rechute avant même que l'athlète ne ressente des douleurs.
C'est comme avoir un système d'alerte précoce intégré à son propre corps.
C'est une image parlante. Et ce n'est pas tout. L'article évoque également l'analyse des biomarqueurs qui permettrait de prédire la réponse au traitement et d'adapter les interventions de manière proactive. On pourrait identifier les athlètes qui risquent de développer des complications, ceux qui ont besoin d'un suivi plus intensif, ceux qui peuvent reprendre l'entraînement plus rapidement.
C'est une médecine personnalisée à un niveau encore jamais atteint, Rune.
Tout à fait. Et pour rendre les soins plus accessibles, l'article mentionne les plateformes de télérééducation qui permettent un suivi à distance et une personnalisation des programmes de rééducation. On pourrait imaginer des consultations en vidéoconférence, des exercices guidés par des avatars, des programmes d'entraînement adaptés en temps réel en fonction des données récoltées par les capteurs.
C'est une révolution pour les athlètes qui vivent loin des centres spécialisés ou qui ont des contraintes de temps.
Absolument. Et ce qui est important de souligner, c'est que toutes ces innovations ne remplaceront jamais le contact humain et la relation de confiance entre l'athlète et l'équipe soignante. La technologie est un outil précieux, mais c'est l'humain qui reste au cœur du processus de guérison.
C'est rassurant de l'entendre whisker. Et on en arrive à la conclusion de cet article. Quel est le message principal que les auteurs souhaitent transmettre au whisker?
Le message principal, c'est que l'approche multidisciplinaire et personnalisée est la clé pour une récupération optimale et une performance sportive durable. Il faut s'attaquer aux causes profondes des blessures et pas seulement aux symptômes. Il faut accompagner l'athlète à chaque étape de sa rééducation en s'adaptant à ses besoins individuels. Et il faut investir dans la recherche et l'innovation pour développer des traitements toujours plus efficaces et accessibles.
C'est un message encourageant. On a l'impression que l'avenir de la médecine sportive est prometteur.
Absolument. Et je pense que cet article nous donne une vision inspirante de ce que pourrait être la prise en charge des blessures du bras dans les années à venir. Une prise en charge plus humaine, plus personnalisée, plus efficace et plus accessible à tous.
Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, l'article complet « Blessures sportives du bras ». Approche complète et intégrée pour le traitement des lésions sportives est disponible en ligne.
N'hésitez pas à le consulter pour approfondir vos connaissances sur ce sujet passionnant.
On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de cette Deep Dive.
Avec un focus sur les avancées technologiques les plus prometteuses pour le traitement des blessures du bras.
D'ici là, prenez soin de vos bras et restez à l'écoute.
À bientôt. Encore, on a beaucoup parlé de technologie, de traitement de pointe, de protocole. Mais il ne faut pas oublier un aspect crucial, la dimension psychologique.
Ah oui, c'est vrai. On a tendance à se focaliser sur l'aspect physique de la blessure.
Exactement. Mais une blessure au bras, surtout pour un athlète, ce n'est pas juste une question physique. C'est aussi une épreuve mentale.
Je vois ce que vous voulez dire.
Imaginez, un athlète qui se prépare pour une compétition importante, qui s'entraîne dur depuis des mois. Et soudain, bam, une blessure au bras.
Tout s'écroule.
Exactement. C'est une énorme frustration, un sentiment d'impuissance, parfois même de la colère, de la tristesse.
Et j'imagine que cet état d'esprit peut avoir un impact négatif sur la guérison.
Tout à fait. Le stress, l'anxiété, la déprime, tout ça peut ralentir le processus de guérison, augmenter la perception de la douleur et même favoriser les rechutes.
Donc il faut absolument prendre en compte la dimension psychologique dans la prise en charge des blessures.
Absolument. Et l'approche TAJMED l'intègre de plusieurs façons.
Par exemple, EV.
Déjà, en créant un climat de confiance et d'écoute. L'athlète doit se sentir compris, soutenu, encouragé tout au long de sa rééducation.
L'aspect humain est primordial.
Exactement. Et ensuite, on lui donne des outils pour gérer le stress et les émotions négatives. Des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga, la respiration profonde.
Ah oui, j'ai entendu dire que ça pouvait être très efficace.
Oui, ces techniques permettent de calmer le système nerveux, de réduire les tensions musculaires, d'améliorer le sommeil.
Retrouver un état de bien-être général, en quelque sorte.
Exactement. Et puis, si besoin, on peut orienter l'athlète vers un psychologue du sport ou un psychothérapeute spécialisé.
Si les difficultés psychologiques sont plus importantes.
Voilà. Donc, on prend vraiment en compte tous les aspects de la blessure, y compris l'aspect psychologique.
C'est important de le souligner. Et parlons maintenant de prévention. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter de se blesser au bras en premier lieu?
Bien sûr. La prévention, c'est essentiel. Et l'article nous donne plein de pistes intéressantes. D'abord, il faut bien s'échauffer avant chaque entraînement.
Ah oui, ça paraît évident, mais on l'oublie souvent.
C'est vrai. Un bon échauffement permet de préparer les muscles à l'effort, augmenter la température corporelle, améliorer la circulation sanguine.
On lubrifie les articulations en quelque sorte.
Exactement. Et ça réduit considérablement le risque de blessure.
Ok, donc échauffement, c'est noté en écal. Et après l'échauffement, il faut penser aux étirements.
Bien sûr. Les étirements permettent d'améliorer la souplesse musculaire, de réduire les tensions. C'est important pour prévenir les claquages, les déchirures musculaires.
Les tendinites aussi.
Oui, tout à fait.
Donc échauffement, étirement, c'est la base de la prévention.
Exactement. Et l'article mentionne aussi l'importance du renforcement musculaire.
Ah oui, des muscles forts, c'est important.
Absolument. Des muscles forts et endurants sont moins sujets aux blessures. Il faut travailler tous les groupes musculaires du bras, de manière équilibrée.
Et j'imagine qu'il faut aussi faire attention à sa technique.
Oui, bien sûr. Une mauvaise technique peut solliciter excessivement certaines parties du bras et augmenter le risque de blessure.
Donc, il faut bien apprendre les bons gestes, se faire corriger par un coach.
Exactement. Et ne pas hésiter à filmer ses mouvements pour s'auto-évaluer.
Ah oui, c'est une bonne idée.
Yeah.
Et l'article parle aussi de l'importance de l'équipement.
Oui, un équipement adapté à son sport, à sa morphologie, c'est crucial.
Par exemple.
Une raquette de tennis trop lourde, mal équilibrée, ça peut causer des problèmes au coude.
Ah oui, je comprends. Donc, il faut bien choisir son matériel. Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte?
Oui, l'hydratation et la récupération sont essentiels. Boire suffisamment d'eau, dormir suffisamment.
Manger équilibré aussi, j'imagine le best.
Bien sûr. Et on peut aussi utiliser des techniques de récupération comme les massages, les bains froids.
Donc la prévention, c'est un ensemble de bonnes habitudes à adopter au quotidien.
Exactement. C'est une démarche globale. Et c'est l'affaire de tous, sportifs, entraîneurs, parents, professionnels de santé. Il faut sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge.
Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit.
Tout à fait.
Et pour conclure cet article, quel message principal retenez-vous?
Eh bien, je dirais que les blessures sportives du bras ne sont pas une fatalité. On peut les prévenir, on peut les soigner, et on peut en sortir plus fort.
C'est un message encourageant.
Oui, l'important c'est d'être bien informé, de s'entourer de professionnels compétents et de rester optimiste.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. On a appris énormément de choses sur les blessures du bras, les causes, les symptômes, les traitements.
Et surtout, j'espère, sur l'importance de la prévention.
Oui, c'est primordial. Et pour nos auditeurs qui souhaitent aller plus loin, n'oubliez pas que l'article complet est disponible en ligne.
N'hésitez pas à le consulter, vous.
On espère que cette deep dive vous aura été utile. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle exploration.
À bientôt.